Pour commencer, c'était apparemment une journée fructueuse que celle d'hier pour les laboratoires Sanofi et GSK. La Commission européenne d'abord a passé commande auprès de ce duo franco-britannique de 300 millions de doses d'un potentiel vaccin contre la Covid-19. Un peu plus tôt, les États-Unis leur avaient promis plus de 2 milliards de dollars pour les 100 millions de doses promises. Mais quels sont les critères fixés par les États pour favoriser un laboratoire plutôt qu'un autre? Dans la course au vaccin que se disputent près de 100 enseignes, de la petite start-up à la multinationale, il se trouve que Sanofi n'est pas la plus proche de la ligne d'arrivée, moins par exemple que l'américain Moderna qui annonçait en début de semaine passer en dernière phase de test. Alors comment se décident ces précommandes massives des États, les caractéristiques des vaccins, leurs conséquences sur la santé publique et leur accès à tous? Sont-ils des critères aussi déterminants que le soutien financier accordé aux laboratoires? Quels seront les gagnants de la course au vaccin? Nous en parlons avec nos trois invités. Bonjour Pauline Landais.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes la cofondatrice de l'Observatoire Transparence Médicaments, OTM. Et nous sommes en ligne depuis Genève avec deux autres invités. Antoine Flao, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut de Santé Publique à l'Université de Genève. Merci d'être avec nous. Ainsi qu'à vous, Elle Storellet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en santé publique, ancienne responsable du programme d'accès aux médicaments de Médecins Sans Frontières. Vous avez dans vos différentes fonctions, Elle Storellet, défendu l'accès à l'innovation médicale. Et c'est à vous que j'adresse cette première question. Le laboratoire américain Moderna a donc annoncé cette semaine entrer dans la dernière phase de test d'un vaccin contre la Covid-19. Et pour rester d'abord sur un aspect scientifique, est-ce qu'on sait comment il a travaillé, avec quelle technologie, quel antigène tout simplement?
Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment cette course au vaccin où il y a beaucoup de chercheurs qui, tous en parallèle, sont en train de développer un vaccin potentiel pour contre cette maladie. Et il y a plusieurs technologies qui sont en train d'être testées, mais tout se focalise quand même sur plus ou moins le même antigène, hein, ce fameux spike protein du virus, qui reste très constant. De ce qu'on sait, donc c'est une cible bien identifiée et bien caractérisée pour développer les vaccins. Donc Moderna, eux par contre, ont choisi d'utiliser une technologie qui n'a pas encore été très très bien établie, dans le sens que c'est à partir de mRNA, du RNA messenger. Et en fait, pour le moment, on n'a pas encore un vaccin sur le marché approuvé qui est basé sur cette technologie. Il y en a plein en développement clinique ou préclinique, mais on n'a pas encore vu un vaccin efficace, bien toléré, développé et présent dans le marché. Donc, c'est très, très expérimental. Mais c'est vrai que c'est une technologie qui permet d'aller très, très vite dans le développement. Et là, on sait très bien que ça fait 6 mois qu'on a entendu parler du Covid et qu'on a la séquence du RNA du virus. Et voilà, ils sont déjà en phase 3, donc ça va très très vite.
Antoine Flao, il faut rappeler que Moderna a travaillé finalement comme les autres laboratoires, avec l'information génétique sur le virus que la Chine avait tout simplement postée sur Internet. Mais qu'est-ce qui peut faire, d'après vous, qu'il soit allé plus vite que les autres?
Alors, Moderna s'est associé au NIH, qui est un peu l'INSERM nord-américain, c'est-à-dire avec une structure très 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 forte, très puissante sur le plan académique en termes de recherche publique. Et par ailleurs, comme l'a rappelé Els tout à l'heure, l'essai est déjà en phase 3. Moderna n'a pas court-circuiter des phases de développement qui sont les phases 1 et 2, puis il y a aussi la phase préclinique. La phase préclinique était très importante. Elle a montré, par exemple, que le vaccin aujourd'hui protège des singes, des primates non humains, ce qui est un très bon indicateur parce que
ils ont fait l'essai sur 8 singes, hein, c'est ça en tout.
Voilà, ils sont très proches de nous, de l'homme, et donc le fait qu'on ait des essais cliniques très prometteurs a probablement faciliter l'entrée dans les essais cliniques.
Voilà, et on s'est rendu compte sur les 8 singes que 7, je crois, après leur avoir inoculé le virus, dites-moi si je me trompe, n'avaient plus ensuite le virus dans le nez. C'est quelque chose comme ça. Je vulgarise beaucoup. Comment va être mise à l'épreuve son efficacité? Sur combien de personnes? Cette phase 3, ça veut dire quoi exactement?
Alors, les phases 3, c'est des phases de en effet, qui cherchent l'efficacité, alors que les phases précédentes sont d'abord orientées sur la sécurité. Vous comprenez donc que dans le développement d'un vaccin, il y a des sortes d'étapes incontournables pour lesquelles on ne peut pas avoir de court-circuit, on ne peut pas accélérer le processus. Il faut véritablement attendre qu'on ait une sécurité garantie pour pouvoir ensuite essayer de faire un essai de plus grande ampleur. Souvent, ça porte sur 30 000 personnes, qui est un essai qui va permettre de regarder si, comme on l'a vu à propos de 7 sur 8 singes, est-ce que sur une grande proportion des 30 000 personnes qui vont être mises dans l'essai, on va voir une efficacité sur la prévention, le contrôle de l'infection de façon très substantielle.
Pauline Londex, en temps normal, entre guillemets, l'essai de la phase 3, il peut durer 2 ans, je crois, sauf si les autorités de santé raccourcissent les procédures. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Est-ce que jusque-là, les délais vous paraissent à peu près normaux ?
Les délais sont absolument pas normaux, c'est-à-dire que pour le développement d'un vaccin, il faut en général environ une dizaine d'années. C'est vrai que là, tout semble vraiment compressé pour développer un vaccin qui puisse être mis sur le marché dans les plus brefs délais. Donc c'est vrai que tout est un petit peu compressé dans cette recherche autour du vaccin du Covid.
Le Moderna, c'est pas le laboratoire auquel on pense quand on évoque les mastodontes de l'industrie pharmaceutique, que ce soit Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck, Johnson & Johnson, Sanofi, entre autres. C'est quoi Moderna ? On a quelques éléments pour essayer de comprendre pourquoi eux, pour l'instant, sont les premiers à s'être manifestés comme étant très proches de la dernière phase de test.
Alors il y a différents laboratoires qui se sont lancés dans cette course au vaccin, et évidemment ce qu'on peut déplorer ou fortement regretter jusqu'ici, c'est d'avoir l'impression que la recherche a vraiment lieu vraiment en ordre dispersé, c'est-à-dire qu'il y ait une forme de désorganisation ou de manque de coordination au niveau international entre les différents laboratoires autour de la recherche vaccinale. Donc on a l'impression que pour arriver et mettre sur le marché un vaccin le plus vite possible, les firmes développent chacune de leur côté un petit peu les potentiels, les candidats vaccins.
C'est ça, Elstorel, chaque développeur doit travailler dans le cadre de sa technologie propriétaire sans pouvoir utiliser d'autres éléments, éventuellement meilleurs d'ailleurs, qui appartiendraient à des concurrents.
Ben, c'est ça la réalité de la manière qu'on a construit notre écosystème de la recherche et le développement des vaccins. On pourrait choisir différemment, mais la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque compagnie, chaque développeur a sa technologie propriétaire brevetée et ils investissent là-dedans pour gagner, hein, pour gagner la course. Et puis, s'ils gagnent la course, ben, ils auront un certain monopole et ça leur permet de demander le prix qu'ils veulent et puis de gagner et rembourser pas seulement la recherche, mais d'en faire des profits. Donc, on a créé un système de recherche biomédicale commercial où on met en compétition des développeurs. On aurait pu choisir, et je pense que ce serait beaucoup plus sain pour la science de travailler beaucoup plus ensemble et de mettre les meilleurs éléments des uns et des autres ensemble, mais c'est pas comme ça qu'aujourd'hui notre système commercial fonctionne. Je voulais aussi ajouter quelque chose, vous posez la question sur pourquoi Moderna, on connaît pas Moderna, c'est une petite firme. Je pense que on parle du vaccin Moderna, mais quand on regarde le développement, pour moi c'est un vaccin NIH. C'est une très très proche collaboration, comme Antoine l'avait déjà dit, avec le NIH qui est vraiment l'institut biomédical de recherche biomédicale américain très très puissant, qui avait déjà travaillé sur cette technologie avec le messenger RNA, le mRNA, la technologie sur laquelle ce vaccin s'est basé. Et finalement, parce que c'est aussi la manière que les États-Unis fonctionnent, il y a beaucoup de recherches publiques qui, à un certain moment, doivent être transférées à des partenaires privés, commerciaux, pour finalement commercialiser le vaccin. Le NIH ne commercialise pas eux-mêmes un vaccin. Ils vont toujours chercher un partenariat. Donc, la puissance de Moderna, c'est d'avoir NIH derrière. Et par ailleurs, l'essai de phase 3, c'est l'NIH qui est quand même en train de le faire, parce que Moderna, c'est une toute petite boîte.
Une toute petite boîte créée il y a 9 ans et dirigée aujourd'hui par l'ancien patron du laboratoire Mérieux à Lyon. Pauline Landec, c'est un mouvement de fond, ces laboratoires qui délèguent leur recherche fondamentale ou qui s'associent à d'autres structures comme ça pour avancer à deux dans la recherche de médicaments ou de vaccins.
Bien sûr, et ce qu'on voit beaucoup, et pour ajouter sur justement sur ce que Health a développé là, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'instituts publics, de recherche publique, qui investissent, qui contribuent à la recherche auprès de firmes privées. Donc il y a énormément de financements publics qui sont investis donc par le NIH en France à travers l'INSERM ou à travers d'autres organismes qui investissent auprès de ces laboratoires pharmaceutiques. Malheureusement, on peut quand même dénoncer le manque de transparence autour de ces financements et le manque de conditionnalité autour de l'octroi de ces financements. C'est-à-dire que nous, une des choses que l'on demande avec l'Observatoire en France autour de ces questions, c'est que autour des financements publics qui sont accordés, par exemple le laboratoire Sanofi reçoit au titre du crédit impôt recherche 1,5 milliard d'euros depuis une dizaine d'années. On veut que autour de ces financements publics à la recherche privée puissent être attachés des conditionnalités en termes de propriété intellectuelle, en termes d'accès, en termes de prix maximum des médicaments ou des produits de santé développés.
Donc là, pour l'instant, de ce que l'on sait, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de Moderna, mais pour reprendre Sanofi, l'exemple qu'on a invoqué en tout début d'émission, qui hier a obtenu plus de 2 milliards de dollars des États-Unis pour une précommande de doses. L'Union européenne qui réserve à Sanofi 300 millions de doses de vaccins. C'est quoi la logique déjà, puisqu'on vient de dire qu'a priori Moderna était quand même plus en avance dans cette course-là. Donc pourquoi les fonds continuent à aller vers tous les autres laboratoires? Et par ailleurs, est-ce qu'on sait s'il y a le moindre début de concessions faites par les laboratoires auprès des États? Est-ce qu'on leur demande des sortes de conditions, quoi, en échange de ces précommandes?
Alors, il faut bien comprendre que l'accord qui est intervenu hier entre la Commission européenne et Sanofi, il faut bien le replacer dans son contexte. Il intervient un mois et demi après le chantage du patron de Sanofi, qui a déclaré que le vaccin serait mis prioritairement
aux Américains.
Des Américains.
Pour vous, c'est un chantage ou est-ce que c'est juste un engagement qu'il honore auprès des États-Unis, puisque les États-Unis ont été les premiers à faire des précommandes?
Il est évident pour nous que c'est une forme de chantage, puisque l'objectif de Sanofi derrière ça, c'est d'obtenir davantage d'aide publique sans condition. C'est-à-dire là, il y a probablement des conditions qui ont été demandées par la Commission européenne, mais ces conditions-là sont toujours opaque, c'est-à-dire qu'on n'a aucune transparence là-dessus. On ne sait pas autour de cet accord quelles sont les conditionnalités autour de la mise sur le marché de ce vaccin. Donc pour nous, il y a une forme de chantage qui est exercée par les laboratoires pharmaceutiques qui veulent plus d'aide. Et on pense vraiment que cette mise en concurrence entre les pays est dramatique. Parce que là, c'est la question, c'est est-ce que les Américains auront d'abord le vaccin par rapport aux Européens? Mais on oublie à chaque fois les pays du Sud, les pays en développement, qui seront les derniers approvisionnés, puisque ce seront les derniers à s'aligner sur les aides publiques des pays industrialisés.
Elle est vraiment passionnante, cette question des aides publiques, des subventions et des éventuelles conditions imposées par les États aux laboratoires en échange de ces massives précommandes. Antoine Flau, c'est vrai que ces fonds alloués à la recherche d'un vaccin, il y en a besoin a priori pour la recherche et pour la production d'un vaccin pour toute la planète. Donc les opposants enfin, en tout cas ceux qui sont en train de dénoncer une grande opacité, comme Pauline Landec aujourd'hui et comme beaucoup d'autres, a priori ne sont pas contre le fait que des fonds soient alloués à ces laboratoires, mais comment et sous quelles conditions?
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est très important de demander une très grande transparence dans l'attribution de ces fonds, ou une plus grande transparence. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 165 vaccins en développement contre ce coronavirus. C'est absolument exceptionnel, hein. Il y en a 140 qui sont toujours en phase préclinique, dont celui de Sanofi et GSK dont on vient de parler. Et puis, il y en a 6 qui sont en phase 3, donc assez près de la ligne d'arrivée. Alors, on peut espérer que l'on va avoir un vaccin au bout du compte, mais la prise de risque de la part des industriels est est considérable. Ce sont des développements qui coûtent extrêmement cher et qui n'ont pas de garantie de succès, y compris pour ceux qui sont en phase 3. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en phase 3 que vous allez être sur le marché, pour plein de raisons, y compris d'abord des raisons de sécurité ou de manque d'efficacité qui peuvent apparaître dans les tout derniers miles, on va dire, kilomètres avant la ligne d'arrivée. Donc le fait que des États fassent de la préemption d'achat de doses, des subventions parfois, c'est quelque chose qui est nécessaire pour avoir, pour donner une incitation financière et pour partager quelque part la prise de risque. Alors, il ne faut pas être naïf, si les États le font, c'est bien entendu pour avoir, pour sécuriser leur marché intérieur, pour leurs concitoyens. On peut aussi avoir un optimisme raisonnable quand on voit les actions qui sont menées, en particulier par l'Organisation mondiale de la santé, qui a développé dès le mois d'avril une initiative qui s'appelle ACT Accelerator et qui vise à sécuriser la possibilité de l'accès à ces futurs vaccins, alors qu'ils ne sont toujours pas sur le marché, hein. Donc c'est très très préalable, anticipateur, pour pouvoir permettre à des pays qui n'auront pas les mêmes moyens que les États-Unis ou l'Europe, ou la Chine d'ailleurs, de disposer de vaccins, en particulier pour les personnes prioritaires. Donc je pense que, je ne dis pas que tout est rose, je dis qu'on a connu de très grands succès dans un passé récent, dans la lutte contre la variole, que l'on a réussi à éradiquer, dans la lutte contre la poliomyélite, on est pratiquement au bord de son éradication. Donc, évidemment, en donnant la possibilité d'accès à des pays très pauvres de la planète, à des vaccins à un coût qui est abordable, ou parfois grâce à des acteurs philanthropiques. Donc je pense qu'on peut penser qu'on aura la même stratégie pour le coronavirus lorsqu'on aura un ou des vaccins disponibles.
Voilà, l'Organisation mondiale de la santé, elle en parle évidemment de l'accès à ces vaccins pour les pays les plus pauvres. Elle propose aussi, l'OMS, que soient vaccinés en premier les travailleurs de santé, le personnel hospitalier. Mais jusqu'où pourra-t-elle l'imposer, Else Torelli?
Déjà, on sait que l'OMS peut faire beaucoup de recommandations, mais elle n'a pas beaucoup de pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien revenir sur quelque chose que notre collègue Antoine avait dit, en disant qu'il y a 6 vaccins en phase 3 et qui sont près de la ligne d'arrivée. Moi, j'aimerais bien quand même nuancer ça, parce que c'est pas parce qu'on est en phase 3 qu'on est près de la ligne d'arrivée. Phase 3, c'est la première phase où on va enfin regarder à l'efficacité, et c'est ça qui est le plus primordial. C'est vrai qu'il faut déjà arriver en phase 3 pour pouvoir tester l'efficacité, mais c'est pas du tout garanti. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions, même sur la question fondamentale: est-ce que c'est possible d'induire une immunité qui protège contre le Covid? La question n'est pas encore résolue. Donc, je pense que c'est super qu'on a 6 candidats vaccins en phase 3, mais il est très très bien probable ou possible qu'aucun des vaccins a une efficacité robuste. Et là, je pense que le risque qui existe aujourd'hui, avec cette course en avant où vitesse, c'est le critère le plus important, où c'est vraiment qui va être le premier sur le marché, je pense qu'il y a un grand risque qu'on va diminuer ce qu'on attend, quels sont les critères de succès d'un vaccin, c'est quoi l'efficacité. C'est pas binaire, c'est pas efficace ou pas efficace. Ça peut aller de 10% efficacité jusqu'à 100% efficacité. Est-ce qu'on va se contenter avec quelque chose qui seulement a 10% d'efficacité? Et le risque est aujourd'hui qu'il y a tellement de pression politique, financière et aussi populiste, si on entend le président Trump, qui pour sa propre élection veut absolument avoir un vaccin sur le marché avant la fin de l'année. Moi, j'ai vraiment une grande crainte qu'on va on va accepter qu'un vaccin complètement médiocre, qui dans une autre condition ne serait jamais approuvé, va être mis sur le marché, et puis il y a toutes ces promesses d'achat des gens qui vont aller probablement ou potentiellement à des vaccins complètement médiocres, et on va vraiment louper l'opportunité de développer un vaccin vraiment mieux adapté aux besoins, mieux adapté aux besoins aussi du reste du monde. C'est pas seulement en Europe ou aux États-Unis dont on a besoin de vaccins. Et je pense que c'est vraiment important de regarder de proche c'est quoi efficacité.
Pauline Londex, tout simplement, est-ce qu'on mise trop sur le vaccin alors qu'on ne sait même pas à quoi ressemblera la deuxième vague et qu'on sait que le virus, comme tout virus, mute, et toutes les questions que pose le fait qu'on ait favorisé pour l'instant la recherche sur un vaccin plutôt que sur un médicament?
Oui, il est essentiel d'avancer, bien sûr, vers le développement d'un vaccin. Ça paraît essentiel de continuer.
Il n'y a pas de question là-dessus pour vous?
Pour nous, pour moi, il n'y a pas de question sur le fait de savoir s'il faut un vaccin ou pas. En tout cas, ce qui paraît évident en revanche, c'est que c'est la concurrence entre tous les acteurs de la recherche qui fait que on se retrouve dans cette situation où, comme le disait Els à l'instant, on va peut-être mettre sur le marché et encourager des vaccins qui seront médiocres. Donc c'est là aussi la limite, je pense, d'un système de développement, de recherche et développement des produits de santé qui est privatisé, qui est privé, qui est autour de logiques d'offres et de la demande, de marché, de prix, etc. C'est pour ça qu'il faut, enfin, selon nous, selon l'Observatoire, ce qu'on pense, c'est qu'il faut sortir de ces logiques de marché. Il faut sortir les produits pharmaceutiques, les médicaments, des logiques de marché. Il faut créer, par exemple, en France, un pôle public du médicament. Il faut que ce soit qu'on sorte de ces logiques de concurrence entre les acteurs, parce qu'on se retrouve souvent avec des produits pharmaceutiques qui ne sont pas exactement ce dont les populations ont besoin en termes de santé, et c'est quand même problématique.
Antoine Flau, je me tourne vers le scientifique que vous êtes. S'il est le premier à dire j'ai trouvé le vaccin, est-ce qu'un laboratoire ensuite imposera son vaccin dans le monde entier par la suite? Est-ce que tous les autres vont aussitôt abandonner leurs recherches? Et surtout, est-ce que le fait qu'ensuite des milliers de personnes se voient inoculer ce virus-là pour lutter contre le coronavirus, est-ce que ça va en quelque sorte changer la réponse immunitaire collective et faire que tous les autres vaccins qui viendront après ne seront plus du tout efficaces parce que le virus aura changé? Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est vrai qu'il y a le côté absurde de cette course au vaccin dont j'aimerais avoir les ressorts scientifiques. Est-ce qu'il y a une absurdité scientifique à ce que plusieurs laboratoires travaillent en même temps sur un même vaccin, mais un même vaccin qui, par ailleurs, n'est pas du tout le même, en fait?
Non, je ne crois pas que le fait qu'il y ait plusieurs candidats vaccins et donc plusieurs firmes et plusieurs équipes qui travaillent sur le projet soit quelque chose qui soit défavorable. Au contraire, on connaît ça pour la grippe. Hein. Pour la grippe, il y a plusieurs producteurs de vaccins, plusieurs développeurs de vaccins, et on espère d'ailleurs toujours, on n'a pas un vaccin, comme me disait Els tout à l'heure, les vaccins ont des efficacités qui peuvent être très très variables. Hein. Et ce n'est pas parce qu'ils sont produits récemment qu'ils sont de meilleure qualité. Le vaccin contre la grippe est plutôt un vaccin ancien et il n'est pas d'une très grande efficacité, malheureusement. En plus, chez les personnes âgées, chez qui il est particulièrement recommandé, il est plutôt moins efficace que chez les personnes plus jeunes. On risque tout à fait d'avoir ce même type de profil avec le vaccin contre le coronavirus. Et puis, on a des vaccins absolument exceptionnels et qui sont assez anciens. Par exemple, le vaccin contre la fièvre jaune, c'est un vaccin exceptionnel que je qualifierais d'exceptionnel en termes de sécurité et d'efficacité, parce que si vous êtes vacciné, pour toute votre vie, vous êtes protégé, je veux dire, pour toute votre vie, et vous êtes protégé de façon 100% efficace. Vous n'allez jamais faire de fièvre jaune si vous êtes vacciné, sauf évidemment si vous avez un déficit immunitaire qui est lié à une autre maladie. Mais donc, on peut avoir beaucoup de chance et avoir un vaccin qui va remporter la mise, si je puis dire, sur le plan scientifique et sur le plan clinique, médical, et qui soit 100% efficace. Et à ce moment-là, ça écrasera probablement toute la concurrence, si jamais c'est le cas. Mais ce cas de figure qui est arrivé avec le virus de la fièvre jaune et qui est un virus aussi à ARN, pourrait se reproduire avec le coronavirus ou non. Et si on a plutôt des vaccins qui sont partiellement efficaces, comme par exemple pour le virus de la grippe, ou voire encore pire, comme par exemple pour le virus de la dengue, les virus de la dengue ont aujourd'hui un vaccin qui n'est pas totalement performant, mais qui n'est pas nul non plus, et qui est suffisamment intéressant pour que l'on puisse se dire, en raison de la gravité de la maladie, en particulier dans certains segments de la population, qu'il vaut mieux et que le rapport bénéfice-risque, bénéfice clinique sur risque d'effet indésirable est favorable dans un certain groupe de sujets très à risque, alors ça n'empêchera pas le développement de concurrents qui pourraient apporter une solution meilleure ou une solution pour d'autres groupes, par exemple.
Alors, Elstorellet, on a pu constater à quel point les personnes malades réagissaient différemment au coronavirus en fonction de leur âge, en fonction d'éventuelles comorbidités et autres facteurs, bien que on n'ait pas encore tellement de certitudes là-dessus. Mais est-ce qu'une fois qu'un premier laboratoire aura brandi son nouveau vaccin contre le coronavirus, est-ce qu'il pourra ensuite travailler éventuellement sur des déclinaisons de ce même vaccin à destination de publics différents?
Pardon. Oui, éventuellement, ou bien, je pense, comme Antoine l'avait indiqué, probablement on aura besoin de plusieurs vaccins qui peuvent être complémentaires dans leur dans la protection de la population. Mais pour cela, il faut de nouveau, comme Pauline l'avait dit, ça va pas avec une logique de marché. Il faut avoir une logique de santé publique où on regarde quelles sont les caractéristiques de chaque des candidats vaccins et sur quelle population ou sous-population ils auraient probablement le meilleur effet. Et c'est assez possible qu'on ne va pas avoir un vaccin qui va être bon pour tous, mais peut-être plusieurs types de vaccins qui induisent une type d'immunité qui est un peu différent et, par exemple, mieux adapté à des gens d'un certain âge ou avec d'autres comorbidités, etc. Mais donc, pour faire ça, c'est pas en avançant dans une compétition aveugle pour arriver sur le marché le premier qu'on va constituer ce portefeuille quelque part de vaccins complémentaires qui vont vraiment pouvoir avoir une réponse santé publique. Et je pense là de nouveau, les critères de succès sont hyper importants. Je regardais là sur le vaccin Moderna, j'ai pas vu le protocole d'étude, mais l'objectif primaire, c'est de voir si le vaccin, qui par ailleurs doit être donné en deux doses avec 28 jours de décalage, qui est pas tout à fait évident à faire pour une vaccination de masse, mais donc ils vont regarder si le vaccin peut diminuer le nombre de gens qui vont développer la maladie Covid symptomatique. Donc, le premier objectif n'est pas de arrêter l'infection, c'est pas la protection contre l'infection, c'est en fait regarder combien de gens développent la maladie. Si j'ai éventuellement, donc le succès de cette étude est dépendant de ce premier objectif. Donc, si on arrive à réduire le nombre de gens avec la maladie symptomatique, mais sans affecter la transmission du virus, l'étude va être un succès et on peut faire un pari que les autorités réglementaires vont accepter ça pour mettre sur le marché. Mais à ce moment-là, on aura un vaccin qui ne va pas diminuer la transmission de la maladie. Donc seulement ceux qui ont été vaccinés vont bénéficier du vaccin et le virus va continuer à disséminer, à être transmis sur tous les autres. C'est pas du tout dont on a besoin.
C'est pas ce dont on a besoin. Moderna, qui a par ailleurs indiqué déjà quel tarif il imaginait pour une dose de ce vaccin, entre 50 et 60 dollars. Pauline Landex, comment, par quel calcul un laboratoire pharmaceutique fixe le prix d'un vaccin et comment on arrive à de tels écarts entre les tarifs indiqués par Moderna et ceux, par exemple, que voudrait pratiquer le laboratoire britannique AstraZeneca, qui s'est engagé à vendre son vaccin 3 à 4 dollars, mais sans doute aussi grâce à l'aide de la puissance publique? scientifique, mais comment se fixe le prix d'un vaccin aujourd'hui ?
Eh bien, le gros problème qu'on a, c'est que les modalités de fixation des produits de santé, dont les vaccins, ne sont absolument pas transparentes, ne sont absolument pas claires, ne s'appuient pas sur des critères objectifs. C'est bien le problème. C'est-à-dire que les firmes arrivent dans une position de force quand elles mettent un produit de santé qui est très important pour une population. Elles arrivent dans une position de force puisqu'elles peuvent négocier de façon quasi unilatérale. Donc, elles peuvent imposer de façon quasi unilatérale un prix. C'est bien tout le problème. C'est bien le problème de l'absence de transparence sur les contributions publiques, parce que si vous financez, si vous êtes une institution publique et vous avez financé le développement d'un produit de santé, d'un médicament ou d'un vaccin, et qu'ensuite vous remboursez à nouveau par l'assurance maladie ou par des achats,
vous payez
plusieurs fois, c'est ça. Donc on a un problème, c'est qu'on paye plusieurs fois, c'est-à-dire que l'État, les États payent plusieurs fois pour les produits de santé.
Et ça, c'est propre au prix d'un vaccin ou c'est vraiment tous les médicaments où il y a quand même des particularités spécifiques au vaccin?
Alors là, on parle de tous les produits de santé, dont les vaccins, puisque les vaccins, mais en tout cas, pour reprendre le prix que vous avez indiqué de Moderna, c'est un prix qui met ce vaccin, par exemple, hors d'accès pour la plupart des pays du Sud. Ce prix est vraiment, mais rend ce vaccin inaccessible pour la majorité de la population mondiale.
Et ce serait quoi le juste prix d'un vaccin alors, qui convienne et à l'entreprise pharmaceutique qui, comme disait Antoine Fléau tout à l'heure, prend des risques aussi à un retour sur investissement très faible a priori sur un vaccin, mais aussi à l'acheteur, en l'occurrence les pouvoirs publics, dont l'objectif a priori est de faire en sorte que le vaccin soit accessible au plus grand nombre.
Le juste prix d'un produit de santé, c'est un produit de santé qui est accessible à toutes les personnes qui en ont besoin. C'est simplement ça le juste prix d'un produit de santé. Parce que les produits de santé ne sont pas des produits comme les autres, puisque des millions de vies en dépendent.
Antoine Flau.
Si je peux me permettre,
Elle
juste pour dire, parce que vous dites que les firmes prennent des risques, je pense que les États, avec les énormes investissements qui sont faits, c'est des énormes risques qu'on prend, et je dis « on » parce que l'argent des États, c'est quand même l'argent des contribuables des taxes. Donc, c'est nous tous qui payons ça, et c'est pour ça qu'il faut avoir une rééquilibration de pouvoir pour déterminer le prix, et donc le risque-prix et l'engagement financier public doit être balancé contre les investissements privés qui, bien sûr, il faut aussi les mettre en valeur, mais pas seulement le privé, et que le risque pris par le gouvernement et par les États et par nous tous soit normal, et nous, on ne doit pas avoir de retour. Notre retour, comme individu, comme citoyen, c'est d'avoir accès abordable pour tout le monde, parce qu'on a déjà contribué.
Donc l'OMS là-dedans est censée jouer un rôle d'arbitre, sauf que elle aussi, elle a une organisation internationale récente, une union publique-privée qui s'appelle le CEPI, c'est un bailleur de fonds qui soutient certains laboratoires producteurs de vaccins, mais sur quels critères, Antoine Flau, là aussi, on a plutôt l'impression d'une certaine opacité. Donc comment, à partir du moment où l'OMS, qui doit jouer ce rôle d'arbitre, ne peut pas le faire pour l'instant, en tout cas pas de façon transparente, comment on fait, tout simplement?
Alors, il y a un certain nombre de mécanismes de régulation à ce niveau qui ont été mis en place au niveau international. Par exemple, vous savez, le vaccin contre le papillomavirus, pour prévenir du cancer du col chez la femme, est un vaccin qui est aussi très efficace et qui était assez cher dans nos pays et qui, en fait, a fait l'objet, justement, de négociations. Alors, dans ces négociations, tout n'est pas forcément, en effet, sur la table et mis de façon totalement transparente, y compris pour des raisons de concurrence entre les groupes. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des grandes campagnes de vaccination qui rendent ce vaccin abordable dans des pays où il n'aurait pas pu être abordable sinon. Peut-être aussi, d'ailleurs, avec l'aide de grands acteurs philanthropiques comme la Fondation Gates ou d'autres.
La Fondation, d'ailleurs, Melinda et Bill Gates, qu'on retrouve quand même un peu partout maintenant à chaque fois qu'il s'agit de parler des politiques de santé.
Oui, et qui sont quand même des grands contributeurs pour l'accès à ces médicaments. Et de la même façon, d'ailleurs, MSF, par exemple, Médecins Sans Frontières, ou d'autres structures, comme celle de Pauline Londay, sont des acteurs qui permettent d'avoir un peu de contre-pouvoir et d'avoir un discours qui soit un discours très exigeant sur le plan de l'éthique et de la santé publique et de l'accès, comme cela a été rappelé, l'importance et l'accès. Mais vous voyez, par exemple, une des firmes, par exemple Gilead, qui a fait un produit contre l'hépatite C, un produit excellent, hein, d'une excellente efficacité et bien toléré, et qui permet de guérir l'infection contre l'hépatite C, eh bien, c'est un produit extrêmement cher. Hein, c'était plus de 70 000 euros le traitement en Europe. Il est vendu à des prix qui sont de 100 à 500 euros pour l'ensemble du traitement, hein, dans des pays comme l'Égypte ou des pays d'Afrique subsaharienne, avec des modalités très différenciées entre les pays. Je pense qu'on va tendre vers cela pour ce vaccin pour le coronavirus. Il y a des pays et des économies qui pourront se permettre d'amortir les coûts de développement et le coût de production dont on parle, qui seront des coûts très importants pour ce vaccin, et puis d'autres qui les auront plus à prix coûtant, parce qu'en effet, le coût réel de la molécule ou du médicament ou du vaccin est généralement pas très élevé.
Pauline Landex, pour conclure, est-ce qu'on pourra produire suffisamment de vaccins pour tout le monde ?
Ben, il faut absolument qu'on puisse produire des vaccins pour tout le monde, mais simplement pour réagir sur le prix des médicaments de l'hépatite C. Si le prix des médicaments de l'hépatite C a pu être disponible dans les pays du Sud à 100 ou 500 dollars, c'est parce que des producteurs de génériques ont pu les produire. Des producteurs de génériques en l'absence de propriété intellectuelle sur ce médicament dans certains pays. Quand on regarde justement la contribution, le développement de ce médicament contre l'hépatite C, on se rend compte qu'il y a beaucoup, que le laboratoire Gilead n'a pas vraiment contribué à ce... Il y a eu une financiarisation de la recherche autour de cette molécule. Là où je veux en venir, c'est que sans transparence, le prix des médicaments va continuer d'exploser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons à nouveau un appel solennel au Premier ministre Jean Castex et à Olivier Véran. Nous avons besoin de la mise en œuvre de la transparence dans les politiques du médicament d'une façon générale. C'est la seule façon de sortir les produits de santé des logiques de marché pour que tout le monde puisse avoir accès aux vaccins, notamment du Covid-19.
Voilà, et ça vaut bien sûr pour ce vaccin. Merci beaucoup, Pauline Landex, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'Observatoire Transparence Médicaments. Merci, Antoine Flau, directeur de l'Institut de Santé Publique à l'Université de Genève, ainsi qu'à vous, Elle Storellet, chercheuse en santé publique à Genève également. Merci à vous trois d'avoir été avec nous.